Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes tous ensemble jusqu'à 21h. Bienvenue dans Europe 1 Soir. Il est 19h sur Europe 1. Et au sommaire, voilà, j'ai trop la haine. Qui est exactement le réfugié afghan qui a tué le jeune Mathis à Châteauroux et qui se mettait en scène dans une vidéo avec un couteau? Les détails dans un instant et tout à l'heure vers 20h15. On se demandera avec Nathan Devers et William Tay si l'élément migratoire a toute sa place dans cette affaire, sachant que les proches de l'assaillant parlent d'un jeune prêt à vriller à tout moment. Mathilde Panot et Rima Hassan, entendus par la police pour apologie du terrorisme, manif au pied du tribunal. La France insoumise crie à la censure, appelle à la résistance. Pendant ce temps, Manuel Bompard et Éric Dupond-Moretti s'invectivent à l'Assemblée nationale. Décryptage dans ce journal et débat tout à l'heure autour d'Olivier Dartigolle et Raphaël Steinville. Dans ce journal également, le gouvernement pourra-t-il atteindre ses objectifs de croissance? Et le roi Charles qui reprend ses activités malgré la maladie, dont on reparlera également avec Stéphane Bern juste avant 9h. La tendance météo. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Pierre. Un 1er mai sous les nuages, sous la pluie, en tout cas pour bon nombre d'entre nous. Il y a aussi de l'orage dans l'air et du gros. Et puis il va faire plus frais, surtout dans le sud-ouest.
À 20h dans le journal de Maëlle Hassani, le menu complet des athlètes pour les JO. Menu culinaire, bien sûr, mais aussi le détail de la liste des Républicains. Et à ce titre, mon invité politique à 20h30 sera Guillaume Carayon, 9e sur la liste LR aux Européennes, porte-parole et vice-président LR des présidents des Jeunes Républicains. Une marche blanche rendra hommage à Mathis samedi à Châteauroux. Tard hier soir, son assaillant a été mis en examen et écroué. Mayalène Trémollet, son profil inquiète surtout depuis la publication d'une vidéo.
Vous voyez là, moi j'ai un couteau. Voilà, voilà, j'ai trop la haine.
Oui, vous venez d'entendre le son de cette vidéo postée par l'assaillant sur ses réseaux sociaux. Une vidéo qui n'est pas datée, sans lien avec l'agression de dimanche, mais dans laquelle il profère des menaces couteau à la main. Mineur afghan en situation régulière, né à Kaboul en janvier 2009, Rahman, 15 ans, était déjà connu des services de police. Décrit comme un enfant violent, il vivait avec ses parents, ses quatre frères et sœurs dans le quartier de Saint-Denis, à Châteauroux, au sein d'une famille également connue des forces de police. Arrogant et provoquant, selon la police locale, il proclamait régulièrement sur ses réseaux sociaux sa haine des policiers. Déjà mis en cause par le passé, ce ressortissant afghan avait été interpellé en février dernier en possession d'un couteau. Puis la semaine précédant la mort de Mathis, il avait été mis en examen pour vol avec violence en réunion. Placé sous contrôle judiciaire, il se serait ensuite vanté de sa garde à vue devant ses amis. Samedi dernier, après avoir perdu une battle de rap, Rahman aurait proposé à Mathis d'en découdre lors d'un combat qu'il aurait perdu. Il serait alors parti chercher un couteau pour se venger à la suite de sa défaite.
Merci Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et lorsqu'on vous interroge, vous êtes 75% à estimer qu'il faut suspendre l'excuse de minorité. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. 19h03, les mobilisations étudiantes pro-Gaza et anti-Israël se sont multipliées encore aujourd'hui à Sciences Po Manteau, à Sciences Po Toulouse, également à la fac de Tolbiac, à Paris, à Lyon, à Grenoble et Dijon. L'insoumise Rima Hassan, candidate aux européennes, qui soutenait le blocage à Sciences Po et qui avait légitimé l'action du Hamas après le 7 octobre, mais aussi la présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, étaient toutes deux convoquées au siège de la police judiciaire à Paris. Elles sont toutes deux visées par une enquête pour apologie du terrorisme, convocation qu'elles ont battue toute la journée, comme l'a constaté Alexis de la Fontaine. Reportage.
Mathilde Panot donne le ton en s'attaquant directement aux enquêteurs.
À ceux qui nous convoquent, j'accuse, vous dévoyez les moyens de l'antiterroriste pour faire taire les voix de la paix et criminaliser les militants.
Après les auditions, les deux insoumises ressortent inébranlées, presque triomphantes, très confiantes à l'idée que les plaintes soient classées sans suite. Rima Hassan, keffiyeh autour du cou, reste droit dans ses bottes.
Je ne regrette rien, absolument rien. Je suis responsable de ce que je dis. Jusqu'au bout, je ne suis pas responsable de comment les personnes l'interprètent.
Direction ensuite l'Assemblée nationale, où la France insoumise accuse le gouvernement de vouloir les censurer. Une honte, répond le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
La justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. Laissez faire la justice en toute indépendance et elle fera son travail. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus Madame Panot qu'une autre.
Après Mathilde Panot et Rima Hassan, ce sera au tour de Jean-Luc Mélenchon de faire face à la justice à la suite d'une plainte pour injure publique déposée par la ministre Sylvie Retailleau.
Reportage signé Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1. On en vient à ce dossier qu'Europe 1 vous présentait dès ce matin, les enfants et les écrans. Il se trouve qu'un rapport a été remis au président de la République tout à l'heure. C'est une commission qui avait été spécialement missionnée au mois de janvier. Louis Salé, première chose, les écrans, c'est pas avant 3 ans et le portable, pas avant 11 ans.
Oui, puis Internet sur son téléphone, c'est pas avant 13 ans. L'accès aux réseaux sociaux, pas avant 15 ans. À partir de cet âge-là, des plateformes dites éthiques dont les contenus sont modérés sont à privilégier. Pour Snapchat et TikTok, il faut donc attendre 18 ans. Ces préconisations précises s'appuient sur les risques sanitaires observés en fonction de l'âge, en particulier chez les tout-petits. Servane Mouton, neurologue, coprésidente de cette commission d'experts.
Sur le plan scientifique, la littérature est plutôt consensuelle sur le fait de dire que les écrans ne sont pas bons pour l'enfant de moins de 3 ans. Entre 3 et 6 ans, il y a des alertes sur le plan neurodéveloppemental qui incitent à dire qu'il faut vraiment que ce soit des temps très restreints, parce qu'il faut intégrer aussi le problème de la vision et de l'exposition à la lumière bleue qui peut avoir des conséquences sur la rétine.
Et des effets importants sur le sommeil, la sédentarité, l'anxiété ont aussi été constatés.
Bon, la solution, Louise, pour éloigner les écrans des enfants, il faut que les adultes aussi s'en éloignent.
Oui, pour les experts, il faut que les parents réapprennent à échanger avec leur enfant. Alors, ça paraît choquant de dire ça, mais les écrans ont pris une telle place dans notre quotidien qu'il y a urgence, insiste Servane Mouton.
Il y a quelque chose qui s'est perdu ou qui est en train de se perdre. Il est temps de reprendre cette conscience de la nécessité de l'interaction et du lien et du jeu et de la discussion avec l'enfant dès sa naissance, en fait.
En maternelle aussi, les enseignants doivent éviter tout type d'outils numériques et en primaire, les tablettes et ordinateurs individuels sont déconseillés.
Merci Louise, les spécialistes éducation d'Europe 1. Il est 19h06 dans l'actualité de ce mardi également. Les rêves de belle croissance du gouvernement, il y a de quoi faire puisque l'INSEE a annoncé ce matin 0,2% pour le premier trimestre. Alors qu'on s'attendait clairement à zéro. Du coup, pas folle la guêpe, Baptiste Morin, le gouvernement revoit très favorablement sa prévision pour l'année.
Oui, en février dernier, Bruno Le Maire avait révisé la croissance attendue par l'exécutif en 2024, passant de 1,4 à 1%. Et ce 1% restait critiqué par la plupart des experts, le jugeant trop optimiste. Pourtant, avec une croissance à 0,2% au premier trimestre, il devient atteignable, comme l'explique le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, Éric Ayer.
Il suffirait d'avoir des taux de croissance de 0,3 chaque trimestre pour être approximativement dans le chiffre prévu par le gouvernement de 1%. Donc, ce qui était à peu près inatteignable, en tout cas, est beaucoup plus probable avec la version des comptes d'aujourd'hui qu'elle ne l'était avant cette version.
Une aubaine pour l'exécutif qui sort d'une séquence mouvementée avec la sortie de route du déficit public en 2023 et l'annonce de deux plans d'économie d'urgence de 10 milliards d'euros chacun. Le soulagement était déjà de mise il y a 4 jours lorsque ni Fitch ni Moody's n'ont touché à leur note de la dette française. Mais la situation n'en reste pas moins préoccupante. L'exécutif s'offre simplement un peu de répit, un mois avant qu'une autre agence, Standard & Poor's, ne se prononce à son tour.
Oui, exactement, et ce sera d'ailleurs le vendredi 31 mai, peu avant minuit. Merci cher Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou a promis que son armée entrerait dans la ville de Rafah avec ou sans trêve. Anthony Blinken, arrivé en Israël, appelle le Hamas justement à accepter sans plus tarder la proposition de trêve avec Israël associée à une libération d'otages retenus dans la bande de Gaza. De son côté, le patron de l'ONU réagit en disant qu'une offensive à Rafah représenterait une escalade intolérable. À Londres, un jeune de 14 ans tué par un homme armé d'un sabre japonais. La police a exclu à ce stade un acte terroriste. Pendant ce temps, le roi Charles III a officiellement repris ses activités publiques après 3 mois d'absence suite à l'annonce de son cancer. Le souverain britannique de 75 ans s'est justement rendu ce matin dans un centre spécialisé contre le cancer, Guillaume Dominguez.
Oui, le roi Charles III s'est rendu en fin de matinée au centre Macmillan de l'University College Hospital de Londres, accompagné de la reine Camilla. Une visite express d'une quarantaine de minutes au cours de laquelle le roi Charles est apparu en bonne forme et souriant, vêtu d'un costume bleu marine à rayures. Seule une démarche lente trahit encore l'état de santé fragile du monarque qui a tout de même pris le temps de saluer plusieurs soignants et patients. « Je vais bien », a-t-il répondu aux curieux, inquiets de son état de santé. Une visite hautement symbolique voulue par Charles III qui voulait sensibiliser à l'importance du diagnostic précoce des cancers. Dans la foulée, le palais de Buckingham a annoncé que le roi allait reprendre un certain nombre d'engagements en concertation étroite avec ses médecins. Une reprise de ses activités publiques en plus des tâches constitutionnelles que le monarque anglais n'a jamais abandonnées, et ce, malgré l'annonce de son cancer en février 2024.
Merci Guillaume Dominguez et on reparle de cette reprise d'activité avec le camarade Stéphane Bern tout à l'heure, juste avant 9h. En attendant, un coup d'œil sur la bourse. Bonsoir Didier Hamon.
Bonsoir Pierre.
Ça baisse.
Oui, ça baisse pas mal même, -0,99%, pratiquement 1% de perdu. Le marché était assez calme, mais il retombe quand même sous les 8000 points, 7985 points sur le CAC 40. Il y a des publications qui ont été mal reçues, des publications de résultats d'entreprise trimestriels. On a en particulier Stellantis qui chute de 10%, 20,88 €. Air France aussi, Air France KLM recule de 4%, de retour sous les 10 euros. Et puis quelques baisses aussi en Europe, Amsterdam -0,4%, Bruxelles -0,1%, le CAC 40 en baisse ce soir -0,99% avant la pause demain du 1er mai, il n'y a pas de bourse demain, 7985 points.
Merci Didier, je vous dis donc pas à demain.
Non.
Marlène Duret, la météo, demain par contre,
oui.
Pas terrible.
Non, effectivement, hormis l'Alsace et la Lorraine, complètement isolés du reste de la France, où nous aurons des éclaircies, des températures qui vont dépasser même les 25 degrés. C'est vrai que la pluie va s'inviter un peu partout, parfois tardivement, ce sera le cas en région parisienne, dans les Hauts-de-France et en Champagne-Ardenne. Ailleurs, ciel couvert et parapluie au programme, des pluies qui peuvent être soutenues, par exemple vers la Provence, le Pays Basque, dans le Limousin ou la Sarthe. On n'oublie pas nos retours d'Est dans les Alpes frontalières, retour d'Est, bah c'est de la pluie. Hein. Si vous ajoutez en plus du vent sur les crêtes, bah les conditions sont réunies pour provoquer des avalanches, même si nous sommes en haute montagne, on le dit quand même. Et puis au fil des heures, ce sera un petit peu mieux sur la côte atlantique. Bon, il y aura quand même de l'air plus frais. On va surtout surveiller, Pierre, les gros orages qui vont se déclencher dans l'après-midi en Bourgogne avec de la grêle, probablement de bons cumuls d'eau. Et ça va se diriger ensuite vers la Franche-Comté, puis plus tard en soirée vers la Champagne-Ardenne, l'Île-de-France et dans la nuit vers les Hauts-de-France.
Et comme prévu, les températures seront en baisse.
Et oui, comme la bourse, ça baisse. Surtout dans le sud-ouest, on perdra en moyenne 4 à 5 degrés, jusqu'à 9, même dans le Bordelais. On va passer de 22 à 13 degrés à Bordeaux demain, alors qu'on plafonnera à 26 à Strasbourg. Joli contraste. Ailleurs, on notera par exemple 15 en Bretagne, 17 à 19 près de la Méditerranée, et puis 21 à Paris comme à Grenoble.
Bon, de toute façon, on a l'habitude maintenant de ces changements de température avec des variables de 10 degrés.
Oui, ça va remonter d'ailleurs au mois
de juin. On prend ses dispositions. Voilà. C'est damar, c'est pull, c'est parapluie, bref. Merci ma chère Marlène.
À tout à l'heure.
Dans un instant sur Europe 1, les enfants et les écrans, c'est non. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Maintenant, c'est un rapport sur l'exposition des jeunes aux écrans qui l'attestent. Axelle Dessin, directrice du programme national d'éducation aux écrans Internet sans crainte, est en direct avec nous sur Europe 1 dans un instant.
Europe 1. Et maintenant, avec Antargaz, parlons énergie des territoires, gaz liquide et biopropane.
Bonjour Julien Germain, vous êtes le directeur commercial d'Antargaz qui accélère la décarbonation des gaz liquides en proposant du biopropane à ses clients. Et depuis maintenant un an, une bouteille Elfi de gaz biopropane est d'ailleurs disponible. Vous pouvez nous en parler ?
La bouteille Elfi propane de 5 kg jaune a été remplacée par la bouteille biopropane, gaz liquide produit à partir de sources renouvelables. Elle est disponible dans plus de 8500 points de vente partout en France et Antargaz s'engage à incorporer dans son réseau l'équivalent de 51% du poids de la bouteille en biopropane.
Alors la Elfi biopropane est donc aujourd'hui la référence de gaz renouvelable de la gamme Antargaz. Mais alors quels sont ses usages et son principal atout ?
Eh bien ce sont des usages extérieurs hein, comme la cuisson au barbecue ou à la plancha ou encore du désherbage thermique et du bricolage. Et le principal atout, ça va être de permettre de réduire de 73% les émissions de carbone par rapport à un propane classique.
Merci et rendez-vous mardi prochain pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic, patron. Parce qu'en ce moment chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Volvic est à 3,18€ et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59€.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Dans un instant sur Europe 1, le premier invité d'Europe 1 Soir, Axelle Dessin, directrice du programme national d'éducation aux écrans Internet sans crainte. Mais oui, il faut enlever les écrans des enfants, mais il faut peut-être commencer par nous, avec nos smartphones. Alors écoutez la radio, c'est mieux, à tout de suite.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R La Mondiale vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2RLamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1, le journal permanent.
À 19h16, les écrans pas avant 3 ans et le portable pas avant 11 ans. Résultat du rapport sur l'hyperconnexion subie des enfants remise à Emmanuel Macron. Plus d'infos sur le profil de l'assaillant de Châteauroux. L'ado de 15 ans, désormais écroué, s'était mis en scène dans une vidéo avec un couteau. Ses proches disent qu'il était prêt à vriller à tout moment. Et puis la reprise des activités publiques pour le roi Charles III à Londres, où un ado de 14 ans a été tué par un homme déambulant avec un sabre japonais.
Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Première invitée dans cette Europe 1 Soir, Axelle Dessin. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du programme national d'éducation aux écrans Internet sans crainte. Ce rapport qui avait été mandaté par le président de la République, que vous lui avez remis avec d'autres personnes, je crois, aujourd'hui à l'Élysée. Alors, ça a l'air simple comme ça de dire aux enfants, finalement, il n'y a pas d'écran, mais cela dit... je parle aussi par acquis personnel. Un enfant, quand ça voit un téléphone portable, ça le chope. Et puis, on n'a pas vu qu'il le regardait déjà depuis une demi-heure.
C'est pour ça que, avant d'éduquer les enfants, il y a besoin d'éduquer les adultes aussi qui sont autour. Et peut-être, effectivement, de repenser à nos usages. C'est un des messages forts qu'on essaie de faire passer dans ce rapport aussi. Qu'on est un modèle pour nos enfants, mais qu'on doit aussi avoir un rôle éducateur et protecteur. Par rapport aux usages des écrans.
Mais quand vous avez vos comptes bancaires sur votre téléphone, quand vous avez votre messagerie sur votre téléphone, quand vous avez vos SMS, plus personne ne téléphone maintenant, je ne sais plus qui me disait l'autre jour, laisser un message sur un répondeur, ça fait tellement 2004. Ben oui, puisque tout le monde laisse des textos, il y a même des gens qui vous disent, laissez plutôt moi un texto plutôt que de me laisser un message vocal. Comment est-ce que vous voulez qu'on se passe de ce téléphone portable qui, quand on le perd d'ailleurs, c'est on a l'impression de perdre un bras, quoi.
Alors, l'idée, ce n'est pas de se passer de son téléphone, de se passer des écrans. Ce rapport n'est pas du tout un rapport anti-numérique et anti-écran, ça c'est important de le dire, mais plutôt de repenser un cadre d'utilisation et aussi pour soi-même. Donc on peut consulter ses comptes bancaires sur son téléphone, mais peut-être au moment où on est avec son enfant et notamment son jeune enfant, d'avoir conscience que quand on est devant des écrans, on le prive aussi de toute une part de relation, d'un regard, d'une parole qui est nécessaire aussi à son développement. Et là, je parle des tout-petits. D'où cette préconisation renforcée de l'interdiction avant 3 ans.
Et donc, inversement, passer du temps avec son enfant sans téléphone portable, ça lui permettrait aussi de se dire que cet objet-là n'existe pas dans son environnement jusqu'à un certain moment.
Oui, en fait, évidemment, l'écran de télévision déjà, est extrêmement tentant. À partir du moment où un écran est allumé, surtout pour un enfant, ça attire. Donc, au moment où on est avec ses enfants, effectivement, mettre cet outil-là de côté, ça peut être une bonne pratique.
Avec nous, Olivier Dartigolle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, chroniqueur politique. Bonsoir Raphaël Steinville.
Bonsoir Pierre.
Rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. Vous aviez également des questions à poser à madame.
On a lu les premières préconisations, qui est un peu un guide des bonnes pratiques. Et comme vous venez de le faire, on questionne nos propres pratiques. Sur le fait, par exemple, de partager avec nos enfants ou petits-enfants un repas en s'éloignant du portable pour avoir un vrai échange et pour essayer de reprendre le contrôle. Peut-être que ces écrans ont pris au fil des années un peu trop de place. Mmh. On le mesure. Alors, est-ce qu'on peut s'autodiscipliner parce qu'on est dans la sphère privée? Donc ça va demander à ce que chacun fasse un effort. J'étais sensible aussi à ce que vous avez dit concernant les industriels, les créateurs de logiciels, parce qu'ils créent beaucoup de formes addictives qui font que nous-mêmes nous sommes pris, mais les enfants y compris peuvent tomber dans une forme de dépendance à l'addiction de certains programmes.
Réponse.
Non, je disais que c'est le premier grand axe de notre rapport. C'est-à-dire, on demande effectivement à des gens de s'autoréguler, de reprendre le contrôle, et en même temps, les outils, les services qu'ils ont sur leur téléphone et la majorité des réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention et nous enfermer quelque part, parce que c'est l'économie de ces réseaux-là.
Est-ce que vous diriez des réseaux sociaux que c'est une addiction de la même façon que la cigarette, par exemple ?
En tout cas, ils mettent en place des mécaniques qui aujourd'hui peuvent être connues comme addictogènes, c'est-à-dire... sur lequel il est difficile d'avoir du contrôle, de pouvoir s'autoréguler, surtout quand on est jeune, et qui nous invite en tout cas, qui ont mis en place plein de mécanismes pour qu'on revienne le plus souvent possible sur l'écran et qu'on y reste longtemps.
Et donc en tout cas, comment est-ce qu'on arrive à lutter contre ce que vous dites exactement, contre cette addictologie ? Parce que j'ai pas l'impression qu'on le dise assez souvent.
Bah déjà le dire. Peut-être qu'on n'a pas assez.
Là on vient de le dire.
Là on vient de le dire. Non, mais je veux dire, effectivement, on a peut-être trop porté le discours sur l'utilisateur lui-même. Les enfants d'abord, décroche-toi de tes écrans. L'adulte aussi, il sent bien. Et on sent bien d'ailleurs que les parents sont pas très à l'aise aussi avec cette posture d'éducation numérique, parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas exemplaires. Et on a mis de côté, en fait, le premier coupable, qui sont ces mécaniques-là. Mais derrière le côté addictogène, il y a aussi, et c'est ce qu'on a voulu vraiment défendre dans ce rapport, on devrait tous, en tant qu'utilisateurs, pouvoir reprendre ce contrôle. Et en fait, choisir les contenus qui nous sont donnés à voir, avoir le droit de paramétrer et d'avoir un fil, finalement, de contenu qui nous correspond.
Raphaël Steinville.
Oui, vous avez dit que cette mission et les préconisations que vous faites, c'est d'abord un guide à l'usage des parents. Mais est-ce qu'il n'y a pas des injonctions contradictoires qui sont faites aux parents, avec d'une part pour ceux qui ont déjà pris conscience de la nécessité de pouvoir réguler et de préserver pour en tout cas jusqu'à un certain âge leurs enfants des écrans, entre justement ce souci qu'ils ont pour leurs enfants et l'école qui s'invite toujours plus via le numérique, via les espaces numériques de travail dans les foyers et pour des enfants qui n'ont pas de portable, même après 15 ans qui, et encore plus vrai avant, qui sont contraints finalement d'avoir recours même à la maison à ces espaces numériques.
Axel Dessin.
Alors, le premier point, et vous avez raison, c'est qu'effectivement, les parents reçoivent des messages contradictoires. Donc, un des premiers objectifs de ce rapport, c'est de pouvoir donner des repères éclairés et de comprendre que si on a mis ces jalons d'âge, c'est par rapport en lien aussi avec le développement de l'enfant et montrer aussi que l'éducation numérique, ça se fait de manière progressive. Mmh. En fait, en gros, si je veux faire une analogie, on lance pas ses enfants dans le grand bain du numérique sans passer par un certain nombre d'étapes. Après, effectivement, et c'est un sujet qu'on pointe aussi, face à l'école, ils peuvent se retrouver là aussi face à des messages contradictoires, c'est-à-dire une école qui leur dit « pas de portable », et puis en même temps qui équipe l'élève d'un outil numérique que le parent n'a pas forcément
sur
choisi.
Sur Europe 1, il y avait effectivement une maîtresse d'école qui disait aujourd'hui « c'est totalement aberrant de donner les devoirs sur du numérique, revenons au livre et au cahier, Olivier Dartigolle ».
Oui, sur le neurodéveloppement de l'enfant, on avait pu lire encore récemment des analyses divergentes. Est-ce que la commission arrive à un consensus et est-ce que c'est plutôt justement le manque d'interaction avec les adultes sur la petite enfance qui peut créer ces troubles plus que l'écran?
Alors en fait, c'est multifactoriel. Effectivement, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas d'élément de causalité entre les écrans et le neurodéveloppement, ou alors ils sont mineurs. Par contre, ce que la science a pu vraiment montrer, c'est que les écrans en tant que tels, là je ne parle pas de contenu, ont un impact sur la santé, sur la vue, sur le sommeil, et ça c'est prouvé. D'où ces règles de 3 ans et de limiter avant 6 ans. C'est d'abord pour des enjeux de santé. Après, effectivement, on voit que dans des utilisations extrêmes, et effectivement, seules, sans l'interaction avec le parent, il peut y avoir des effets délétères sur le langage, sur le développement de l'enfant. Et c'est sur ça qu'il faut alerter. Oui. Effectivement, il faut encore qu'il y ait de la recherche pour pousser. Mais il y a des cas cliniques, quand même, qui montrent qu'une utilisation excessive.
Je discutais avec une sophrologue qui disait que certains enfants sont irrécupérables. C'est-à-dire qu'on essaye pourtant de les sortir de ça et que c'était extrêmement difficile
On n'est pas aussi alarmiste avec tout, parce qu'on a consulté quand même une centaine de professionnels, y compris des professionnels de santé, qui effectivement sont confrontés, alors, et des enseignants aussi, à des élèves avec vraiment des grosses difficultés d'attention. Ils nous disent, on voit les effets là, des bébés Covid, qui sont maintenant en maternelle et qui ont des grosses difficultés d'attention. Non, c'est réversible. C'est-à-dire que vraiment, quand on retire les écrans...
Après, il y a des images chocs. C'est-à-dire que si un enfant de 3 ans, par mégarde, prend un téléphone portable, il veut regarder Winnie l'ourson et il tombe sur le trailer de Freddy 3, évidemment, ça peut le marquer à vie.
D'où l'importance, quand on est parent, de ne pas laisser son téléphone à disposition. Il y a le côté attractif. Et puis peut-être, si on sait qu'on a un enfant, on va mettre en place un outil pour s'assurer que ça n'arrive pas.
C'est ce qu'on disait justement au début de notre entretien. Merci beaucoup, Axel Dessin. J'imagine qu'on peut retrouver ce rapport. Il est public, on peut le retrouver sur un site.
Alors, il est diffusé aujourd'hui. Je pense que, c'est soit déjà en ligne, soit imminent.
Eh ben parfait, merci d'avoir été notre première invitée sur Europe 1 dans Europe 1 Soir. Dans un instant, elle est fille dans La Tourmente. On revient dans Europe 1 Soir dans un petit instant. À tout de suite.
19h-21h, Europe 1 Soir.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
À tous ceux qui en ont marre qu'on leur parle de pouvoir d'achat. C'est vrai, il y a mieux comme pouvoir, comme être invisible. Vous me voyez là? Eh ben non, vous me voyez pas, je suis dans la radio. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même bien. Intermarché s'engage et vous propose le produit le moins cher de France. Les poires Williams demi-fruits au sirop léger Paquito sont à seulement 1,81€. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 5 mai, 455 grammes, soit 3,98€ le kilo. Poire française sur la base d'un relevé en date du 29 avril. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendid réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en 2 matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid, ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG, demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir?
Ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe. Dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les 3 brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
À ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même. Ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé.
indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
La Poste. Déjà ? Adverbe qui, prononcé de manière surprise, décrit une chose qui arrive bien plus vite que prévu, comme par exemple une indemnisation.
Alors pour être indemnisé sous 48 heures en cas de sinistre couvert, découvrez l'assurance habitation de la Banque Postale. Pendant les bons plans logement de La Poste, pour toute nouvelle souscription jusqu'au 19 mai inclus, les 4 premiers mois sont offerts. Conditions sur labanquepostale.fr. CNP Assurance IARD, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des assurances.
Europe 1, le journal permanent.
Avec Maël Hassani, bonsoir Maël.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Une marche blanche pour rendre un dernier hommage à Matisse. Elle aura lieu samedi prochain dans les rues de Châteauroux, où cet adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé par un mineur afghan de 15 ans le week-end dernier. Le suspect est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire depuis la nuit dernière. De nouvelles actions pro-Gaza dans les universités, des rassemblements et parfois des blocages organisés aujourd'hui à la fac de Tolbiac à Paris, mais aussi à Sciences Po Lyon, Grenoble, Dijon, Reims et Rennes. Manifestation aussi à l'université de Saint-Étienne. La police a dû intervenir pour évacuer les militants. Rima Hassan persiste et signe la candidate LFI aux prochaines élections européennes. Maintient ses propos polémiques sur le Hamas. Elle l'a dit en sortant des locaux de la police judiciaire où elle était convoquée dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. La chef des députés LFI, Mathilde Panot, était également convoquée pour un motif similaire ce matin. Le Hamas doit répondre à la proposition de trêve à Gaza dans les prochaines heures et le chef de la diplomatie américaine met la pression sur le mouvement terroriste. Anthony Blinken demande d'accepter l'offre sans plus tarder. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet de lancer une offensive sur la ville de Rafah, qu'un arrêt des combats ait été acté ou non. Israël exige une réponse du Hamas d'ici demain soir. Et puis les demi-finales allées de la Ligue des champions de football débutent ce soir. Le Bayern Munich affronte le Real Madrid à 21h. Avant le choc, Dortmund-Paris-Saint-Germain demain soir.
Merci Maël Hassani. Prochain point sur l'actualité dans cette Europe 1 soir, dans un quart d'heure.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Toujours en compagnie du chroniqueur politique Olivier Dartigolle et du rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche, Raphaël Steinville. On va, si vous le voulez bien messieurs, passer en revue la journée folle des LFI. Alors il y a eu cet accrochage entre Manuel Bompard et Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale. Et puis tout a commencé par cette convocation de Rima Hassan et de Mathilde Panot devant les locaux de la police judiciaire. Rima Hassan et Mathilde Panot entendus donc par ce tribunal de police de Paris. Et juste après cette convocation, eh bien une manifestation avait été organisée au pied du tribunal, ce qui a permis à Mathilde Panot de prendre la parole.
À ceux qui nous convoquent, j'accuse, vous dévoyez les moyens de l'antiterroriste pour faire taire les voix de la paix et criminaliser les militants. C'est l'ensemble de la bourgeoisie autoritaire au pouvoir qui s'est mise en mouvement contre le camp de la paix.
Et on va écouter également Rima Hassan à la sortie de cette convocation.
Je ne regrette rien, absolument rien. Je suis responsable de ce que je dis. Jusqu'au bout, je ne suis pas responsable de comment les personnes l'interprètent. Et donc, effectivement, avec 9 secondes d'une interview qui fait 40 minutes, ça a laissé place, surtout quand sciemment on coupe la question sur la qualification du Hamas comme étant un groupe terroriste. Forcément, les gens qui écoutent ces 8 secondes se disent « Mais attendez, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de légitimité ?» Et donc là, on est en train de se battre, on va se battre jusqu'au bout pour que vous ayez tous et toutes accès à cette interview parce que je n'ai absolument rien à cacher. Et donc, en ce sens, je regrette aucun des mots que j'ai pu tenir dans cette interview.
Voilà, difficile à suivre. Hein. Rima Hassan et Mathilde Panot qui étaient donc entendus pour apologie du terrorisme. Raphaël Steinville, est-ce qu'on arrive à savoir où est le clocher ? Est-ce qu'il est encore au milieu de l'église ? Et est-ce que l'église est encore au milieu du village, si j'ose dire ?
En fait, je pense que c'est presque une fausse question parce que derrière tout ça, on le sent bien, il y a une stratégie qui est assumée de plus en plus, de plus en plus ouvertement. Et donc, peu importe la condamnation, peu importe... En fait, c'est le bruit.
C'est le rouleau compresseur.
C'est le rouleau compresseur. C'est le simple fait même que nous soyons assis autour de cette table et que nous parlions de LFI est déjà en soi un succès pour eux, que ce soit en bien ou en mal. Oui. Pour eux, ils engrangent... c'est d'ailleurs très étonnant.
Vous voulez dire, on devrait même pas en parler parce que ça leur fait de la publicité.
Non, mais c'est un peu le drame et le piège tendu par Rima Hassan et tous ceux qui continuent dans cette voie. C'est que lorsque l'on dissèque après même les mots de Rima Hassan, de Mathilde Panot et qu'ils continuent à se présenter comme des militants de la paix, moi je veux bien, j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait des véritables militants de la paix, mais peut-on considérer que LFI aujourd'hui milite pour la paix au Proche-Orient quand ce sont les mêmes qui scandent des slogans comme de la rivière à la mer, niant l'existence même de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de problématique et d'une certaine manière, on ne fait que donner un peu plus d'écho à cette cause.
À chaque fois qu'il y a un propos problématique, entre guillemets, on se défile. C'est-à-dire que là, vous avez entendu Rima Hassan qui a dit, c'est une interview de 40 minutes, on a pris un bout. Ça s'est produit également dans d'autres cas, pas forcément de LFI ou d'autres personnages politiques, comme Olivier d'Artigol.
Il y a deux dimensions aujourd'hui. D'abord, il y a une dimension judiciaire. Là, il me semble que les deux affaires, Panot et Hassan, ont été transmises au parquet. Qui va donc donner une appréciation. Pour ma part, vraiment, personnellement, je ne suis pas favorable à une judiciarisation du débat politique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je pense que le juge de paix, c'est le résultat le 9 juin pour les élections européennes.
Donc on peut laisser dire Mathilde Panot, Rima Hassan, ce qu'elle veut.
Je suis en total désaccord, par exemple, avec le fait qu'il ne qualifie pas le Hamas comme une organisation terroriste.
Et mais ça, vous ne leur ferez pas dire.
Et comme responsable d'un pogrom abominable. Mais je me méfie, dans la période que nous allons traverser, je préfère que la dispute ait lieu sur le plan politique, parlementaire, médiatique, et qu'elle soit tranchée par les électeurs, plutôt que d'aller vers une hyper-judiciarisation de tout ça. Bon, peut-être que je me trompe, mais je ressens un peu sur ce climat-là. Deuxième chose, la technique de Jean-Luc Mélenchon est une technique qu'on connaît par cœur. Créer un point de fixation, un moment de sidération politique avec des déclarations, puis après presque être sur la demande d'un apaisement, aller vers de la philosophie politique, convoquer Hannah Arendt, et il fait ça très régulièrement. Des coups de chaud pour après
est-ce
faire
que ça
redescendre. Ça, j'ai envie de dire, vous savez, la dernière fois, en 2019, Raphaël, de mémoire, Manon Aubry est à 6%, ce qui n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon, en 2022, d'être à 22%. Mmh. Aujourd'hui, ils ont fait un choix stratégique, électoraliste. Mmh. On peut juger que ce choix électoraliste et moralement contestable, dans le sens où il vise un vote communautariste. Mais dans ce moment de décomposition, recomposition politique, peut-être que c'est pour lui une option qui peut l'amener à être touche-touche en qualification de second tour.
Raphaël Stainville.
Moi, c'est ce que je crois très profondément. Je crois que ce qui se joue pour LFI, c'est beaucoup moins le score qu'il réalisera au soir des européennes que au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui vise la qualification pour le second tour. Il le répète à l'envi. Il ne lui a manqué que quelques centaines de milliers de voix en 2022, de même qu'en 2017. Et donc c'est son pari, c'est d'aller mobiliser ceux qui sont déjà quasiment le plus captif parmi son électorat, c'est-à-dire l'électorat des banlieues. On sait, ça a déjà été dit, 69% des Français de confession musulmane ont voté.
Ceux qui vont voter.
Non, qui ont voté en 2022 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce pari que de faire grossir cette communauté.
En tout cas, le porte-voix de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, celui qui vient sur les plateaux de télévision, qui vient à Europe 1, qui vient à CNews, c'est Emmanuel Bompard. Et aujourd'hui, il s'est exprimé à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Et il accuse le garde des Sceaux de vouloir museler l'opposition.
On empêche des candidats à une élection de tenir une conférence dans une université. On convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. Il y a les opinions autorisées, les vôtres, et celle de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. Avez-vous l'intention de saper un à un les fondamentaux de notre état de droit? Quand allez-vous cesser de défigurer la France?
Bon, à entendre Emmanuel Bompard, on est en Corée du Nord. Éric Dupond-Moretti lui a répondu.
Monsieur le député Bompard, la justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance. Vos amis à vous, ce sont les mollas, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte.
Olivier, on peut continuer comme ça très très longtemps.
J'entends
hein.
des excès des deux côtés, pour le coup, sur ce qu'on vient d'écouter.
Dupond-Moretti aussi le,
oui.
Vous auriez gardé votre calme, vous, dans l'hémicycle, en tant que ministre de la Justice, quand vous entendez ça?
Oui, mais justement, Éric Dupond-Moretti, j'ai le sentiment que l'ancien ténor du barreau, à qui t'as tort, il a du mal, définitivement, à se faire, à ce chaudron qu'est l'hémicycle, qu'est le Parlement, qu'est le Parlement, avec des fois des foucades. Moi c'est pas un grand moment parlementaire. La difficulté que j'ai, c'est que l'attitude des insoumis écrase tout, et ceux qui sont sur la défense de la cause palestinienne, qui est une cause honorable au regard de ce qui se passe à Gaza, qui sont pour une solution à deux États, pour la paix et la sécurité, pour les Israéliens et les Palestiniens.
Ils ne sont pas tous pour une solution à deux États, les Palestiniens.
Oui, mais pour ceux qui le sont...
On va faire un ratio, à mon avis, on va être
déçus. N'en doutez pas, il y a encore des personnes dans ce pays qui défendent la Palestine et le peuple palestinien, mais qui souhaitent les deux États, la paix et la sécurité. Moi, je viens de cette culture-là, vous voyez. Mais aujourd'hui, les insoumis écrasent tout. Et il est très dur de faire entendre de nouveau cette voix, qu'on peut entendre, par exemple, aussi dans la société israélienne, avec ce qui se passe dans certaines mobilisations.
En tout cas,
ça devient difficile.
Pour LFI, ça n'est pas un mantra, la défense de la Palestine. On le sait. Pour relisez le livre, l'excellent livre d'Éric Nolot, qui parle justement de Mélenchon. C'est de la com. Il utilise terriblement, d'ailleurs, la cause palestinienne.
Il ne s'est jamais déplacé.
Pour des questions électorales.
Il ne fait jamais un déplacement.
En revanche, il tense Madame Braun-Pivet en disant qu'elle campe en Israël. Enfin, je veux dire.
Oui. Mais il y avait encore une fois, il y avait une culture à gauche qui était une position équilibrée d'avenir, une solution à deux États qu'on entend peu médiatiquement parce que la polémique insoumise écrase tout.
Raphaël Stainville.
Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, rappeler que récemment, un responsable syndical de la CGT a été condamné pour un communiqué écrit au lendemain du 7 octobre qui faisait l'apologie du terrorisme. Et c'est dans le même cadre que Mathilde Panot a été convoquée pour un communiqué pour le moins alambiqué. Alors bien sûr, j'entendais tout à l'heure Olivier expliquer que le calendrier était malencontreux, qu'on aurait peut-être pu attendre ce que la justice soit plus tardive. Peut-être qu'elle aurait pu être un peu plus prompte à se saisir. Et encore une fois, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti qui auditionne et qui a convoqué Rima Hassan et Mathilde Panot, mais bien le parquet antiterroriste.
Oui, mais enfin, il représente en l'occurrence la justice dans l'hémicycle, donc il faut bien qu'il réponde.
Il y a quand même une séparation des pouvoirs. Quant à la réponse d'Éric Dupond-Moretti, malheureusement, moi je trouve que elle manque de nuances. C'est-à-dire que d'un côté, à chaque fois avec les adversaires politiques de la Macronie, soit on est poutinophile lorsqu'on s'appelle Éric Zemmour ou Marine Le Pen, soit maintenant on est mola maniaque lorsqu'on s'appelle Jean-Luc Mélenchon.
Il y a de la recherche dans la sémantique, il faut dire.
Donc je pense que ça n'aide pas à un débat constructif et à un apaisement des débats.
Messieurs, on va se retrouver dans quelques instants après notamment le journal permanent, et je voulais vous dire que chaque matin à 9h20 dans Europe 1 Matin, Olivier Delagarde lit, analyse et commente ce qui fait la une de vos journaux. Vous retrouvez la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1 dès maintenant en replay sur le site et sur l'appli Europe 1 demain matin à 9h20, donc sur Europe 1. On écoute un extrait.
Le grand retour du tableau le plus célèbre de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Cette dame dépoitraillée, brandissant un drapeau tricolore sur une barricade, on pourra le redécouvrir à partir de jeudi au Louvre. Et y emmener les étudiants de Sciences Po, on leur expliquera que c'est bien la liberté et non pas le wokisme qui doit guider le peuple.
Eh bien justement, Olivier Degarde vous parle de Sciences Po, ça tombe très bien, la transition est toute trouvée, c'est justement ce dont on va parler dans un petit instant sur Europe 1. Restez avec nous.
19h, 21h, Europe 1 soir.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
40 ans de regard incisif sur l'Amérique. C'est ce que propose le musée Mayol en présentant une grande rétrospective de l'artiste américain Andrés Serrano. Plus de 80 photographies révèlent une Amérique aux mille facettes. Religion, sexe, pauvreté, racisme, Andrés Serrano explore tous les tabous de son pays. Andrés Serrano, portrait de l'Amérique, une exposition au musée Mayol à Paris. Un partenariat Europe 1.
Europe 1. Le journal permanent.
À 8h moins le quart, l'assaillant de Châteauroux, âgé de 15 ans, désormais écroué, s'était mis en scène dans une vidéo avec un couteau. Ses proches disent qu'il était prêt à vriller à tout moment. Les écrans pas avant 3 ans, le portal pas avant 11 ans. Résultat du rapport sur l'hyperconnexion subie des enfants, remis aujourd'hui à Emmanuel Macron. Anthony Blinken en Israël pour soutenir la trêve à Gaza avec libération d'otages israéliens. Un premier convoi jordanien d'aide humanitaire devrait partir aujourd'hui.
Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneau.
Avec autour de moi Raphaël Steinville, rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche, et le chroniqueur politique Olivier Dartigol. On parlait de Sciences Po, Olivier Degarde, on parlait dans sa revue de presse brillante tous les matins, dans Europe 1 matin, c'est vrai. Et à Sciences Po, la situation, je l'ai énuméré tout à l'heure en titre, encore aujourd'hui à Sciences Po Toulouse, encore aujourd'hui à Sciences Po Menton, il y a eu des débordements, il y a eu des mobilisations d'étudiants anti-Israël, d'étudiants anti-Gaza, et vous le savez, puisqu'on en a parlé hier, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a dit « Mais si c'est comme ça, moi j'attends la sérénité, j'attends la sécurité à Sciences Po Paris, et en attendant, je coupe les financements. » Alors quand une consoeur de Public Sénat au Sénat, justement, rencontre Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, eh bien voilà ce que Sylvie Retailleau répond à Valérie Pécresse.
Je laisse à Valérie Pécresse ce choix. Effectivement, un choix plus ou moins cohérent, mais je ne jugerai pas là de la cohérence du choix. Sciences Po, c'est 15 000 étudiants. C'est aussi une continuité du service public. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes en discussion avec Sciences Po sur leur contrat entre l'État et Sciences Po. Et à l'aide de ce contrat, qui est un vrai levier, et aussi pour les finances, nous allons remettre ce cadre républicain et ce travail, effectivement, pour avoir, comme vous l'avez dit, du vrai débat avec de la controverse et du respect. Comme je le dis toujours, le blocage, oui. Le blocage, pardon, non. Même si le débat, c'est oui. Et le dialogue est tout aussi important que la fermeté.
Ça s'appelle un lapsus révélateur, Olivier Dartigol.
Non, Pierre, vous ne pouvez pas me demander de faire l'exégèse de
Sylvie Retailleau.
De Madame Retailleau. Parce que non, il faudrait que... Non, c'est difficile pour la ministre, on le voit bien. C'est difficile pour la direction de Sciences Po. Moi, je viens d'une génération où j'avais pu faire des choses pour la libération de Mandela, par exemple, ou sur d'autres sujets. Mais c'est une école de sciences politiques. Donc, il peut
pas
donc
que,
y avoir
pas que,
une.
Ça a été une excellente école d'économie et de finances aussi.
Il y a aussi des choses concernant le droit international, il y a des étudiants étrangers. Je trouve que l'annonce de Valérie Pécresse sanctionne pour le coup l'ensemble des étudiants, alors qu'on ne cesse de me dire qu'il s'agit d'une minorité...
100-150 étudiants sur 15 000.
Voilà, très exactement. Bon, j'espère que la température va un peu baisser, qu'on va pouvoir reconsidérer...
Donc vous êtes plutôt contre l'action de Valérie Pécresse ?
Oui, je la trouve... Je pense que c'est un coup politique.
Ah bon, elle aussi sur...
Ben oui, mais ils font. Je peux pas leur reprocher le fait de faire de la politique. Mais oui, sur le timing. Après, j'ai décidé de. Bon, il y a quelque chose d'un peu. Et puis c'était un peu en contradiction avec l'affirmation que ces étudiants, dans leur écrasante majorité, ils vont vers les examens. Bon, j'ai eu le sentiment que ça laissait croire que
ceux qui agissaient étaient pour le coup la quasi-totalité des étudiants de Sciences Po et donc ils seraient tous sanctionnés, parce qu'elle sanctionne tous les étudiants de Sciences Po par cette
décision. Forcément. Oui. Raphaël Stainville.
Mais moi j'ai l'impression que cette démonstration d'autorité de Valérie Pécresse était une réponse à la démission en race campagne du gouvernement et de la principale intéressée, la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Rotaillot, qui... finalement, s'est refusé de trancher, suspendant les procédures disciplinaires pour retrouver un semblant de calme qui n'existe pas. D'ailleurs, elle a été elle-même obligée de s'y reprendre aujourd'hui au sein de l'hémicycle, précisant que pour ceux qui avaient tenu des propos antisémites, continuaient leur procédure normale. Mais voilà, je pense que c'est d'abord ça, c'est un coup politique pour se démarquer d'un gouvernement qui aujourd'hui empêtré, qui cherche une porte de sortie, qui a du mal finalement à taper du poing sur la table pour que la direction de Sciences Po et les étudiants récalcitrants retrouvent le chemin.
Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire là? Parce que Gabriel Attal, au premier coup de semonce, j'allais dire, à Sciences Po, est arrivé avec sa voiture. Il est arrivé, lors d'un conseil d'administration, d'ailleurs, de tout le, j'allais dire, le board en bon français, mais en tout cas du conseil d'administration de cette école renommée, en disant voilà, le poisson pourrit toujours par la tête, c'est ce qu'avait dit le Premier ministre. Et là, tout d'un coup, il est muet total, on se croirait dans un film des Frères Lumière, et il envoie au turbin, j'allais dire, Sylvie Retailleau, on sent qu'elle a du mal, enfin, au micro de ma consoeur de Public Sénat, on a l'impression, on a visionné les images là tout à l'heure avec les équipes d'Europe 1 Soir et avec Capucine Petuet, c'est incroyable, enfin, on a l'impression qu'elle est terrorisée par ce qu'elle peut dire pour la défense de son gouvernement, mais... en disant oui, mais vous comprenez, et en même temps, et ceci et cela.
Mais tout ça s'inscrit quand même dans un continuum, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vacuité de l'intervention du président le soir de sa réélection.
Le président Macron.
C'est-à-dire, que veut-il faire précisément de ce second mandat? Je ne sais pas si vous avez oublié cette séquence où ils ont un gros problème de ressources humaines. Quand il s'agit de composer un gouvernement, on voit que ça prend plusieurs jours et que, ma foi, le stylo tremble et qu'il semblerait que le banc de touche soit un peu dégarni. Et donc, Mme Retailleau a certainement des qualités, mais elle n'a pas la qualité de diriger un ministère dans un temps de secousse.
Et vous voulez dire quoi? C'est contagieux et que du coup il y a une espèce de contagion générale parce que le président manque de souffle à son discours d'investiture.
Je pense que quand la feuille de route n'est pas claire, quand on nomme un premier ministre en disant que c'est l'arme anti-RN et que ce discours sur l'autorité accouche après de stratégies telles qu'on les voit sur aujourd'hui. Sciences Po, ou sur la délinquance des mineurs. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment qu'il y a à Matignon aujourd'hui une main de fer, puis quelque chose qui va véritablement tenir un gouvernement. Il y a une crise politique, pour le coup, d'autorité, sur un gouvernement Attal dont la feuille de route était l'autorité.
Raphaël Stainville.
Oui, moi j'ai surtout l'impression que le « et en même temps-isme » fonctionne par temps calme, mais oui. Lorsque les temps sont chahutés, que ça tangue à droite et à gauche, ça ne fonctionne plus du tout.
Parce qu'on attend la parole du chef, parce que le chef tergiverse.
Il a parlé.
Mais je sais, mais...
Sorbonne 2, c'est comme Ariane, ça devait décoller.
Mais parce que cette doctrine aussi est totalement fluctuante. Quand vous avez une doctrine qui est fluctuante, c'est difficile d'avoir un cap, ça louvoie en permanence. Et je trouve que les propos de Madame Retailleau, c'est de la bouillie d'une certaine manière, mais ça résume d'une certaine manière le macronisme.
Ça fait rien.
Lorsque les difficultés
non
sont
mais ça ne fait rien avancer. Oui, et l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait?
Pire,
Valérie Pécresse arrive en disant je vais vous couper les bourses.
Pire, c'est même pire parce que je trouve il y a encore quelques jours on ne parlait que de Sciences Po Paris. Aujourd'hui on parle d'un certain nombre d'instituts de sciences politiques en province qui finalement par mimétisme en viennent à reproduire les mêmes blocages. D'autres facs également. Donc c'est parce qu'il y a
l'inertie. C'est de l'inertie,
oui,
c'est-à-dire que c'est de la contagion.
Oui, il y a l'idée que l'hypercommunication, et Gabriel Attal est un communicant, que l'hypercommunication peut donner l'illusion de l'action. Donc on peut être comme un lapin à effarre d'une voiture au moment Attal, sur sa première visite à Sciences Po,
avec en effet quelque chose qui semble être de l'action politique. Mais en fait, il s'agit de communication. Et quand on mesure que derrière, les actes ne tombent pas, la séquence est une séquence difficile pour l'exécutif.
D'autres sujets, tout à l'heure je le disais en titre, Anthony Blinken est arrivé en Israël pour soutenir la trêve à Gaza avec, on l'espère, une libération d'otages à la clé. Alors sachant que si effectivement il y a une libération d'otages, ben, ça sera comme la dernière fois, il y aura aussi une libération des prisonniers palestiniens, et souvent c'est 2-1 ou 3-1. Est-ce que là aussi, puisqu'on vient de parler de la... Je reprends vos mots, Olivier d'Artigol, la vacuité du gouvernement. Est-ce que là aussi, il y a une sorte de vacuité, un attentisme, une espérance qui n'en est pas une ?
Ah non, j'espère que le ce qui se dessine avec les interlocuteurs régionaux et avec les États-Unis, bon, la France n'est pas dans le match, là, hein, va permettre la trêve. Je pense qu'il faudra... dans les années qui viennent, avoir d'autres interlocuteurs, que le Hamas ne peut en rien représenter les Palestiniens, c'est l'ennemi des Palestiniens, et qu'il faudra aussi un changement politique en Israël pour trouver des interlocuteurs permettant de construire un chemin de paix. Mais déjà, il faut le cessez-le-feu, il faut une solution humanitaire pour le peuple gazaoui, alors que Benjamin Netanyahou, qui vit quand même des difficultés politiques, je ne sais pas si vous avez lu la tribune de Finkielkraut dans le Figaro de lundi, il me semble, ou de la fin de semaine, qui disait combien Benjamin Netanyahou était en grande difficulté quand même sur sa situation politique aujourd'hui.
Ça, on le sait depuis le 7 octobre. Hein. Depuis la faille, depuis la faille sur le renseignement.
On le sait depuis les accords d'Oslo qu'il a combattu depuis...
Et paradoxalement, la guerre lui offre un sursis politique.
Mais justement, la guerre lui offre un sursis politique. Est-ce que le fait de continuer la guerre n'est pas pour lui justement le fait de se maintenir ?
Ben oui, surtout que quand vous interrogez les Israéliens, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde.
Non, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, loin de là.
Ils veulent la libération des otages, d'abord. Ça, pour autant, vous interrogez un Israélien dans la rue, lequel, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Sderot, à Jaffa, peu importe, il veut la libération des otages.
Parce que la vie humaine là-bas, une vie humaine.
Oui, mais pour autant, et je pense que Benjamin Netanyahou, depuis le début, a été très clair depuis le 7 octobre et ses premières prises de parole, il veut l'éradication du Hamas en tant que tel. Et d'une certaine manière, cet objectif, il le poursuit inlassablement. Aujourd'hui, un certain nombre de bataillons du Hamas ont été liquidés, mais tant qu'il ne sera pas allé au bout, et d'une certaine manière, les Israéliens aussi sont d'accord avec cet objectif, assez contradictoire avec la nécessité de tout mettre en œuvre pour libérer les otages.
D'où l'offensive à Rafah. C'est ce que dit Benjamin Netanyahou, qui joue pas seulement un portefeuille politique, mais il joue aussi la survie d'Israël. Si la guerre ne continue pas, aussi effroyable qu'elle est, il n'y a plus d'État d'Israël.
La population civile gazaoui qui est à Rafah, alors que les lâches du Hamas sont dans les tunnels.
L'État hébreu a quand même, et particulièrement Tzal, a quand même ouvert les vannes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de Gazaouis ont retrouvé leurs habitations dans le nord. Alors, dans quelles circonstances on imagine le désastre, parce que les pylonnages ont été ardents. Ouais. Mais cette volonté d'Israël d'éradiquer le Hamas, elle est intacte. Ouais. Elle est partagée par un grand nombre d'Israéliens.
Et vous remarquerez
mis à part la pression des États-Unis et des États voisins, notamment, je pense à l'Égypte, qui a tout intérêt à ce que cette guerre débouche sur un accord.
Si c'est la branche armée, d'accord, mais si c'est les dirigeants qui sont dans les villas climatisées au Qatar qui continuent à être dans le jeu diplomatique.
Il faut malheureusement composer avec ça. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de pays arabes qui empêchent pour l'instant Israël de mener cette guerre. Donc il y a ça aussi, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans l'engrenage.
Il y avait les accords d'Abraham qui commençaient à avancer. Bon, mais en tout cas, pour le coup, ce qui a été au début une riposte à l'attaque du Hamas, qui est devenue après quand même une opération très dure contre le peuple palestinien, a créé aussi une opinion internationale qui est en solidarité aujourd'hui au peuple palestinien.
Merci messieurs, merci Raphaël Steinville, merci Olivier d'Artigol. Dans un instant, le journal de Maël Hassani dans Europe 1 Soir. Juste après, on reparlera de l'agression de Matisse et on s'interrogera sur cette question. Est-ce que la question migratoire est vraiment au centre de cette affaire? Et puis tout à l'heure, à 20h30, je recevrai Guillaume Carayon, qui est le président des Jeunes Républicains, puisqu'on a enfin la liste des Républicains aux Européennes. A tout de suite dans Europe 1 Soir.
19h, 21h, Europe 1 Soir.
À tous ceux qui appellent un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20 euros jusqu'à 30 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Hey, trop de boulot, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-he réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Europe 1 Soir,
19h, 21h,
Pierre de Villeneuve.
Europe 1 Soir, juste